Alors, justement, vous parliez, on disait qu'il regardait les étoiles, qu'il voyait les étoiles dans le ciel et tout ça. Et certaines étoiles, justement, font penser à des formes et on leur a donné des noms. Alors, justement, là, on va écouter tout de suite un reportage, toujours de Michel Bougelat, hein, toujours extrait donc, de cette cassette audio Astronomia. C'est sur la mythologie. Et vous allez un petit peu plus comprendre, pour ceux qui connaissent pas trop l'astronomie, l'histoire des constellations. Et juste après ce reportage, donc on va parler plus en détail des constellations. A tout de suite.
Dans les campagnes françaises, les légendes à propos du chariot sont innombrables. Dans certaines régions de Bretagne, la Grande Ourse est un navire naufragé tiré par des hippocampes de mer. D'autres la voient comme une grande casserole posée sur un feu de braise. Elle est veillée par un petit homme qui s'époumonne à souffler dessus pour l'empêcher de bouillir. Si son attention se relâchait, ce serait alors la fin du monde. Plus poétique, mais très loin de chez nous, les balinais des amis à moi se figurent un cerf-volant que Vishnu a volé à Shiva pour protéger l'ordre cosmique et moral de l'univers. Si un jour ce dernier est en péril, Vishnu gagnera la terre sur les ailes du grand oiseau de papier. Une fable taoïste décrit comment les sept dieux habitant la Grande Ourse eurent un jour envie de goûter au plaisir de la vie terrestre. Ils descendirent dans la maison d'un condamné à mort et furent reçus par ces jeunes femmes qui offrirent vin et plaisirs raffinés. L'astronome de la cour, s'apercevant soudain d'un grand vide au ciel, courut informer l'empereur que les sept étoiles avaient disparu du firmament. « Monseigneur, la Grande Ourse !» Elle n'est plus là! Affolé à l'idée que la fin du monde était proche, l'empereur ordonna une amnistie générale et l'homme qui était accusé à tort fut gracié. Ouf! Comme vous le voyez, cette constellation n'a cessé d'engendrer mythes et croyances, respect et crainte.
Voilà donc en ce qui concerne la grande et la petite ours, c'est des constellations qu'on peut voir dans le ciel. Donc pour en parler plus en détail, il faut savoir que ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure en première partie d'émission, on dit qu'on bouge dans l'univers, et les constellations telles qu'on les voit aujourd'hui devaient être différentes il y a des millions d'années.
Oui, elles étaient en partie différentes, mais elles ressemblaient beaucoup. Et pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'astronomie au temps préhistorique, effectivement, on trouve par exemple, aujourd'hui, de nos jours, il y a une étoile qui s'appelle l'étoile polaire, qui se trouve être juste au-dessus de l'axe de rotation de la Terre, ce qui fait que quand la Terre tourne sur elle-même, elle semble rester immobile dans le ciel. Mais l'axe de rotation de la Terre se déplace lentement. Et donc l'aspect du ciel change effectivement sans que les constellations se déforment. Hein, les constellations se déforment également, mais beaucoup plus lentement. Mais l'aspect du ciel change parce qu'il semble, de millénaire en millénaire, changer de forme. Et il y a une étoile qui est appelée par les Acadiens juge du ciel. Parce qu'à une certaine époque, elle remplaçait l'étoile polaire actuelle. Elle était l'étoile polaire de l'époque. Où ces observations astronomiques étaient faites. Et cette étoile, c'est Vega. Vega qui est une étoile qui est très facilement reconnaissable, que vous verrez cet été très facilement. Elle sera juste au-dessus de vos têtes. Elle a un magnifique éclat bleuté dans les nuits bien noires. Et Vega était effectivement, à une certaine époque, l'étoile polaire. Mais elle était il y a 13 000 ans, c'est-à-dire à la fin de la dernière glaciation. Ce qui signifie que les Acadiens, dans leur compilation astronomique, gardent le souvenir, c'est une espèce de fossile culturel, d'une époque où on faisait déjà de l'astronomie, où on regardait le ciel et on notait ses régularités, et c'était il y a plus de 13 000 ans, donc.
Ouais, ça ne rajeunit pas, tout ça. toujours dans le sujet de l'astronomie, à quoi ça sert, quand on a préparé cette émission ensemble, M. Currier, vous m'avez parlé de ciel de quartier. Bon, ça fait partie de la vulgarisation, et j'aimerais qu'on en parle plus en détail.
Oui, en fait, l'idée, c'est simplement celle-là. C'est aussi celle que M. Bonnet expliquait tout à l'heure. Le ciel, tout le monde a essayé d'en faire quelque chose. Dans toutes les cultures, dans toutes les civilisations, tout le monde essaye encore aujourd'hui. Et en plus, je pense qu'effectivement, ça pose tout un tas de questions sur qui on est, d'où on vient. Ça oblige à porter un regard sur... finalement, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? L'immensité céleste est tellement immense, justement. Et puis, c'est une façon de porter un regard sur la science, parce que c'est une science qu'on peut pratiquer soi-même. C'est pas simplement un discours, c'est pas simplement des belles histoires qu'on raconte sur RDC. C'est aussi quelque chose, après, quand on éteint son poste de radio, qu'on peut aller faire. Enfin, peut-être pas ce soir, parce que le temps s'y prête pas trop. Mais c'est quelque chose qu'on peut faire par soi-même. On peut aller voir, on peut aller vérifier, on peut se l'approprier. Et en plus, le ciel, c'est bien un truc qui est à personne, pour l'instant. C'est bien ça. Et je pense que, du coup, ça en fait un support d'activité... un support d'activité qui est extrêmement riche, qui est extrêmement vaste et qui est très peu exploité. On parlait de vulgarisation, de ce qui se passe dans les écoles, mais partout, dans les quartiers, dans les campagnes, n'importe où, on peut avoir envie de regarder le ciel et de se l'approprier et d'en faire quelque chose, d'en faire un usage. Tout le monde en a fait un usage. Pourquoi serions-nous, depuis une vingtaine d'années, les premiers êtres humains à ne faire aucun usage du ciel? Et ça serait vraiment dommage. Le problème par rapport à ça, effectivement, c'est que si je suis animateur de quartier, ou si je travaille dans une MJC, ou dans une maison pour tous, ou n'importe, je me sens pas forcément capable de me lancer là-dedans. Et donc, effectivement, l'Association française d'astronomie où je travaille a impulsé un programme qui s'appelle Ciel des quartiers, qui vise à essayer de développer tous les trucs possibles qui pourront aider des gens qui ont envie de se servir du ciel, même s'ils y connaissent rien, pour lancer des activités. Donc c'est un programme qui dure maintenant depuis un an et demi. J'invite tous les auditeurs à prendre contact avec nous. On essaiera effectivement de les mettre en contact avec des clubs d'astronomie, avec des passionnés comme les animateurs du club Copernic, comme d'autres en France, qui peuvent effectivement travailler avec vous pour faire en sorte que le ciel finalement... devienne effectivement la propriété de tout le monde.
On va continuer toujours dans cette émission. Alors, on va passer maintenant, à moins qu'il y en a qui voulaient préciser encore des choses sur ce sujet de l'astronomie, à quoi ça sert. Peut-être Monsieur Bonnet.
Oui, moi je pourrais dire que, pour compléter aussi ce qui vient d'être dit, l'astronomie c'est une science qui est vraiment une science pas dangereuse. Contrairement à la chimie, par exemple, on peut se faire sauter un creuset à la figure et y perdre un œil ou les deux. L'astronomie, il faut vraiment le vouloir pour se crever l'œil. C'est pas trop dangereux, c'est pas polluant. On peut construire soi-même son propre télescope, donc on peut se donner soi-même les moyens de l'observation. On apprend beaucoup de choses, parce qu'on apprend l'optique, on apprend les lois de la physique. C'est un laboratoire, l'astronomie, absolument unique. Et c'est la raison pour laquelle je crois que c'est très populaire, en fait, et qu'il faut le populariser, parce que c'est une activité qui est presque une activité sociale. Moi, je me rappelle avoir monté un petit télescope, pas très grand, une lunette, en fait, dans mon petit village des Hautes-Alpes, juste au moment où la comète... comment elle s'appelait, cette comète Schumacher-Levy, est allée rentrer dans Jupiter, et s'est fragmentée en petits morceaux, et est allée s'écraser sur Jupiter. On regardait tous Jupiter et tout le monde est venu, et tout le village est venu. Il y avait 25 personnes qui étaient là et chacun voulait mettre son œil à l'oculaire de la lunette. C'est tout à fait intéressant. Du coup, les gens qui ne se parlaient plus depuis des années parce qu'ils n'étaient pas très copains, eh bien, rien que le fait de mettre l'œil dans la lunette les rapprochait un petit peu, même s'ils regardaient des objets très éloignés. Donc ça, cet aspect aussi social qui est tout à fait intéressant. Je voudrais dire, puisque moi je m'occupe de l'espace, que je pense que l'astronomie faite à partir de l'espace, c'est aussi une science qu'on va pouvoir très bientôt mettre à la portée des amateurs. D'abord parce qu'on peut leur prêter du temps de télescope aux amateurs, des temps de grands télescopes, comme le télescope de Hubble, qui a un programme dans lequel les étudiants peuvent, ou les élèves peuvent, s'ils soumettent de bonnes idées d'observation, faire des observations avec un télescope qui est quand même de taille extrêmement respectable. Et puis, vous avez aussi des moyens de faire des petites expériences qu'on met à bord de satellites ou de fusées et qui vous permettent bien d'apprendre comment on peut construire des télescopes dans l'espace, les faire marcher, analyser leurs données et plus tard peut-être bien devenir un astronome amateur ou même un astronaute.
Pourquoi pas ? Monsieur Le Tessier, vous aviez peut-être quelque chose à dire sur l'astronomie, à quoi ça sert ?
Non, je crois que beaucoup de choses ont été dites, des véritables choses. Je pourrais ajouter une chose, c'est que même si l'on n'a pas de télescope, pour continuer ce qui a été dit tout à l'heure, même quand on n'a pas de télescope, je crois que c'est formidable, parce qu'en fin de compte, l'écran, il est juste au-dessus, et en plus, c'est gratuit, il y a juste à lever la tête, et je crois que c'est formidable.
C'est vrai, tout à fait.
Si je peux rajouter quelque chose très très brièvement, je voudrais revenir sur l'idée que l'astronomie c'est aussi très utile pour s'orienter, pour se donner un moyen de référence dans cet univers immense. Eh bien, quand on a les étoiles au-dessus de nos têtes, ça nous rassure parce qu'elles sont pratiquement toujours au même endroit, et bien que dans la réalité, elles bougent. Et on s'en est aperçu récemment parce qu'on a un satellite qui regardait les étoiles, le satellite ISO de l'Agence spatiale européenne, et qui exigeait, pour regarder un certain nombre d'étoiles, de s'orienter par rapport à d'autres étoiles. Et plusieurs fois, on a raté les étoiles quand vous les regardez, pas longtemps, on s'est vite rattrapé, parce que les étoiles de référence qu'on utilisait, c'est-à-dire les repères astronomiques, eh bien, avaient bougé dans le ciel. Ils n'étaient plus au même endroit. Et il nous a fallu des coordonnées très précises qui ont été précisées justement par un autre satellite qu'on appelait Hipparchos, qui nous a donné ces mesures très précises pour pouvoir corriger nos directions d'observation et regarder la cible qu'on voulait atteindre. C'est une science, disons, de repérage aussi, mais qui exige qu'on l'entretienne, parce que les étoiles bougent. Et les fameuses constellations, c'est vrai que si elles gardent en gros la même forme, eh bien, elles peuvent, au bout d'un certain temps, se déformer. Ce ne sont que des structures, disons, des figures qu'on aperçoit dans le ciel, mais qui n'ont aucune réalité physique en tant que structure en elles-mêmes, ces constellations.
Bien sûr.
Je rajouterais aussi peut-être quelque chose, c'est qu'effectivement, avec ou sans télescope, alors par contre, il faudra peut-être faire un peu plus attention. C'est peut-être une des rares fois où l'astronomie devient légèrement dangereuse, mais elle n'est pas dangereuse, elle est simplement, il faut juste faire un petit peu attention. Avec ou sans télescope, et qu'on soit au courant ou pas, on fera de l'astronomie tous, et en particulier ici à Mantes-la-Jolie, on sera très très près de ce qui va se passer maintenant dans un peu plus de 14 mois. Puisque en plein jour, donc ça sera le mercredi 11 août 99, ouais. Il sera à peu près midi 25, et peut-être que vous l'aurez oublié d'ici là, mais rappelez-vous-en au moment où, pendant 2 minutes et demie pour les plus chanceux, il fera nuit en plein jour, et que les étoiles les plus brillantes apparaîtront. Il va y avoir une éclipse totale de soleil, un phénomène rarissime et absolument magnifique. C'est-à-dire la Lune qui va passer dans le Soleil et qui va l'éteindre pour nous pendant quelques minutes. Ça, c'est quelque chose qui vaut vraiment la peine d'être vu, et ça donne aussi toute la mesure de la beauté du spectacle astronomique, en fait.
Alors ça, c'est justement quelque chose que les êtres vivants, les hommes, depuis qu'ils existent et qu'ils ont des yeux pour voir, ont vu. Donc, on parlait tout à l'heure de nos ancêtres qui regardaient le ciel et qui faisaient de l'astronomie sans le savoir. Eh bien, les éclipses, là, ils ont bien dû se poser des questions, parce qu'il en arrive une à peu près tous les 2 ans sur Terre, et donc, il en arrive certainement une au moins dans la vie d'un être humain à un endroit donné sur Terre. Et donc, ça vous fait vous poser des questions quand même. Le soleil qui s'éteint, c'est pas un phénomène banal. Les animaux qui vont se coucher parce qu'ils croient que c'est la nuit, des tas de phénomènes bizarres. Et encore récemment, lorsque on est allé observer les éclipses dans les contrées lointaines de l'Afrique, eh bien, un certain nombre de villages se posaient des questions. Mais qu'arrive-t-il ? Qu'est-ce qui nous arrive ? Il n'y a plus de soleil, le soleil a disparu. On fait de l'astronomie aussi en regardant le soleil, et c'est certainement la forme de l'astronomie qui a été le plus facilement et le plus longtemps visible, si je peux dire, et interprétée par les êtres vivants sur Terre.
D'accord. Moi, je voudrais apporter aussi une petite précision, justement, parce que Monsieur Le Tessier disait il suffit de lever les yeux. Et moi, je voudrais dire quand même, puisqu'on parle de l'éclipse du soleil, que si vous avez envie de regarder le soleil, c'est justement la seule chose que je peux trouver dangereuse en faisant de l'astronomie, c'est de regarder le soleil à l'œil nu. Parce que ça abîme les yeux et ça peut vous rendre aveugle irréversiblement. Donc, je vous vois secouer la tête, mais si, c'est vrai.
C'est surtout très très dangereux quand on regarde dans un instrument d'optique. Vous avez peut-être déjà fait l'expérience de rapprocher une loupe d'une feuille de papier.
Oui.
Si la loupe est un peu puissante, ça prend à peu près une seconde avant qu'elle s'enflamme. En gros, c'est le même type de risque que vous faire courir à votre rétine si vous regardez le soleil directement à travers un instrument d'optique. Je dirais qu'à travers À l'œil nu, le Soleil n'est pas plus dangereux. Et pas plus dangereux pendant une éclipse que quand il n'y a pas d'éclipse. Simplement, quand il n'y a pas d'éclipse, vous n'êtes pas tenté de regarder. Vous regardez, ouais. Vous êtes ébloui, vous regardez ailleurs, et puis c'est fini. Le problème, c'est que quand on vous dit qu'il y a un phénomène qui va se passer, qui vous verrez qu'une seule fois dans votre vie, ça vaut peut-être le coup de s'abîmer un petit peu les yeux pour regarder, et vous risquez de forcer vos défenses naturelles sans savoir qu'en fait, le risque que vous courez pour vos yeux est plus grave que ce que vous croyez. Surtout qu'en plus, il n'y a pas de nerf de la douleur dans les yeux, ouais. Et vous aurez des lésions à la rétine irréversible avant d'avoir mal. Donc effectivement, il faut faire un petit peu attention. Ceci dit, il y a des moyens de protection qui existent, qui seront certainement disponibles d'ici là. Donc il n'y a pas de souci à se faire. Ça, du coup, à ce moment-là, ça devient moins dangereux que traverser la rue.
Voilà.
Mais c'est vrai qu'il faut faire un tout petit peu attention quand on regarde le soleil, et en particulier à travers un instrument d'optique. Ça, c'est à proscrire. On ne regarde pas le soleil à travers un instrument d'optique, sauf quand on est absolument sûr du filtre qu'on a mis devant. Et encore, même là-dessus, il y aurait des tas de choses à dire.
Exactement. Alors, on va marquer de nouveau une pause musicale, puisqu'on est dans les étoiles, justement. Je sais pas lequel d'entre vous qui a vu le film Men in Black avec Will Smith. Et c'est justement la bande originale du film qu'on écoute. On se retrouve juste après pour la troisième partie de cette émission. Troisième sujet, c'est qui peut faire de l'astronomie. Monsieur le Tessier, on est à l'antenne. Voilà, non, c'est pas grave. Faut quand même dire aux auditeurs que pendant les pauses musicales, ils parlent entre eux, justement. Ils se posent des questions, voilà, et puis ils y répondent. Donc, nous voilà de retour à l'antenne sur Radio Droit de Cité. Alors, une petite question, une petite parenthèse. Combien d'entre vous ont vu Men in Black? Personne?
Ouais, si, moi je l'ai vu.
Ah, très bien. Non, c'est une petite parenthèse comme ça. Bien, alors là on attaque donc le sujet suivant. C'est qui peut faire de l'astronomie? Donc ça c'est la question que je sais pas qui veut répondre, mais ça va parler justement entre autres de la vulgarisation de l'astronomie.
Jean-Pierre, oui.
Alors oui, Jean-Pierre Perrier du Club Copernic. Je crois que comme l'ont dit tous les interlocuteurs autour de cette table, tout le monde peut faire de l'astronomie dès sa plus tendre enfance. On peut déjà être porté vers ce regard merveilleux que constitue le spectacle du ciel. Bon, il est certain que le premier instrument est celui qu'on sous-exploite, c'est l'œil. Avec l'œil, on peut déjà observer 3000 étoiles environ. Bien entendu, cela est subordonné à la qualité du ciel. Et puis, dès que l'on passe ensuite, disons, à la phase instrumentale, eh bien, là, on a accès à des objets qui sont très intéressants. Avec une petite lunette de 40 mm, 50 mm environ, on peut déjà apercevoir l'anneau de Saturne. On peut voir nettement Jupiter, ses satellites. Donc, je crois qu'on peut aujourd'hui très facilement faire de l'astronomie, d'autant que les coûts de ces instruments ont considérablement chuté.
Donc, oui,
voilà, c'est pour l'aspect un petit peu technique. La réponse.
Ça tombe dans des prix raisonnables. Et alors, une question que doivent se poser les auditeurs, c'est l'astronomie, est-ce que c'est amusant ? Serge ?
Amusant. Bon, je crois que c'est d'abord passionnant. Ouais. C'est passionnant parce qu'on a en face de soi le spectacle du ciel. On est, me semble-t-il, porté à percevoir une dimension poétique, d'abord, me semble-t-il. Et puis, bien sûr, après cette perception intense, eh bien, on est amené à s'interroger. Et là, on retombe sur toutes les questions que nous avons évoquées précédemment. C'est-à-dire qu'on est à nouveau relié à l'univers. Et à partir de là, plein de questionnements s'élaborent. Et on en arrive à avoir des démarches scientifiques, en tout cas, à en ébaucher au niveau amateur, toujours est-il.
Au niveau amateur. Donc ça, là, on parle plus en détail donc des clubs d'astronomie. Et donc les clubs, c'est dans le rôle du club en fait, c'est de faire connaître l'astronomie aux personnes qui adhèrent. Qui répond?
Oui, bon voilà, je peux dire deux mots de notre propre club, puisqu'après tout, autant prêcher pour notre chapelle. Ce que je peux vous dire, c'est que le club Copernic, lui, au début, il s'était assigné trois buts. Alors, Serge nous a rappelé qu'il avait été fondé, puisqu'il en est le fondateur, en 70. Et d'un point de vue, disons, légal, statutaire, il s'est assigné trois buts, qui sont d'abord apporter une aide aux écoles, pour faire connaître l'astronomie auprès des jeunes. Alors ça, c'est une tâche à laquelle Serge s'emploie depuis de nombreuses années. Il est très très assidu. Il fait beaucoup d'interventions dans un grand nombre d'écoles du département et même en dehors du département. Il a maintenant, je dirais, des clients fidèles au niveau des enseignants qui l'appellent régulièrement. Et je crois que c'est une activité qui marche très bien et qui contribue à prolonger l'enseignement de l'astronomie officielle, disons au regard des textes officiels. Le deuxième aspect, c'est le développement de l'astronomie amateur auprès du grand public. Ça, c'est ce que nous essayons de faire quand le temps nous le permet. Ce n'est pas toujours facile parce que nous sommes bien évidemment tributaires du climat. Ici, on n'a pas vraiment 300 nuits claires par an. Nous disposons de plus d'un diaporama qui est axé sur la découverte du système solaire, d'un autre qui est centré, lui, sur l'histoire de l'astronomie. Et donc, nous alternons un petit peu les soirées publiques, les soirées au télescope, quand nous le pouvons, avec des conférences auprès des municipalités ou des différentes associations qui nous le demandent. Et puis, je dirais que le troisième but, alors là, on retombe vraiment sur la vocation d'observation en tant qu'amateur, c'est de procurer à des amateurs une observation que par eux-mêmes, ils ne pourraient pas s'offrir. C'est-à-dire que un amateur peut difficilement s'offrir un télescope de 500 mm, c'est absolument pas dans ses capacités financières. Et là, il se trouve que depuis quelques années, bien, notre projet est précisément de fabriquer, et nous sommes en plein dans ce chantier-là, de fabriquer un télescope qui aura donc une ouverture de 500 mm, ce qui nous permettra de collecter une quantité de lumière importante. Et là, donc, on est vraiment dans la finalité d'un club, c'est-à-dire qu'on peut à tous réaliser ce qu'individuellement, on ne pourrait pas faire.
D'accord. Alors, on a un auditeur à l'antenne, justement, qui voudrait poser une question. Allô, bonsoir.
Allô, bonsoir.
Bonsoir, tu t'appelles comment ?
Olivier.
Olivier, tu nous appelles d'où, Olivier ?
De Bréval.
Bréval, ça va ? Tu passes une bonne soirée ?
Ouais, je m'emmerde un peu, quoi.
L'émission te plaît ?
Ouais, ça va.
Bon, très bien. Tu voulais poser une question donc qui est membre du club ou Monsieur Bonnet ou Monsieur Curie.
Ouais, je sais, un membre du club, là, pourquoi pas.
Un membre du club, d'accord. Eh bien, il t'écoute. Vas-y, pose ta question.
Voilà. Je suis très intéressé par l'astronomie. J'adore ça. Mais le problème, c'est que j'ai pas de moyen de m'acheter le matériel pour observer les étoiles. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous pouvez me conseiller, quoi.
Alors, vous n'avez pas entendu la question, je crois.
Non,
si
non, pas beaucoup.
Non. Alors, je vais répéter. Donc, il disait qu'il était très intéressé par l'astronomie et qu'il aimerait s'acheter une lunette astronomique, mais il ne sait pas. Il a raccroché. Il ne sait pas laquelle. Il vous demandait un conseil. Donc, pour débuter dans l'astronomie, quelle serait la lunette astronomique qu'il pourrait acheter ? Il vous écoute par l'intermédiaire de la radio, je pense.
Oui, bon. Je pense qu'il n'y a pas. Enfin, c'est un peu compliqué. Il y a différentes possibilités. Ça dépend ce que vous avez envie de faire. Il y a des moyens de s'éclater et de s'en mettre plein les yeux avec une paire de jumelles. À partir du moment où on a un ciel un peu dégagé, un ciel pur, si on a la chance de pouvoir partir un petit peu à la campagne, avec une paire de jumelles, on voit des choses absolument magnifiques. Je dirais que c'est bien d'être à plusieurs aussi pour partager ces moments-là, ce que vous avez expliqué sur le fait que c'était un truc social. C'est surtout ça qui fait que c'est très attirant. Une paire de jumelles pour faire ça, c'est déjà très bien. C'est déjà des moments absolument inoubliables. Après, il y a effectivement la possibilité d'acheter une lunette ou un petit télescope. Et là, on commence à grimper dans les prix. Je dirais que la deux chevaux de l'astronome amateur, qui est un petit télescope de 114 mm, c'est très important, le diamètre d'un télescope. C'est ça qui compte. C'est pas du tout son grossissement ou quoi. Des fois, il y a des catalogues qui vous expliquent que la lunette machin grossit tant de fois. Ça, on s'en fout. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le diamètre du télescope pour savoir combien il recueille de lumière. Parce qu'on regarde des objets qui sont très faibles, parce qu'ils sont très loin, on l'a expliqué tout à l'heure, très faibles en lumière. Donc, on a besoin d'une très grosse pupille d'entrée, un très grand diamètre. Enfin, le diamètre le plus grand possible. 114 mm, c'est-à-dire un peu plus de 11 cm. C'est un bon diamètre pour démarrer. C'est la 2 chevaux de l'astronome amateur et on en trouve pour 3000 francs, 3500 francs. C'est à peu près ça, les prix qu'il faut compter quand on a envie de dépasser le stade de la jumelle. Mais je pense que la paire de jumelles, c'est dommage de rater ça.
C'est sûr. Alors, je voudrais apporter une petite précision, puisque là, j'ai des auditeurs qui m'ont appelé sur mon portable, parce qu'à ce qui paraît, il y a des problèmes pour joindre la radio. Alors, je ne sais pas, puisqu'on vient d'avoir un auditeur à l'antenne, donc normalement, c'est bon. Hein, vous pouvez composer le 01 34 79 97 79 pour poser des questions. Et toujours dans le rôle de la de la vulgarisation de l'astronomie, il faut savoir qu'il y a des émissions aussi qui font de la vulgarisation d'astronomie, et notamment la Nuit des Étoiles, qu'on trouve chaque année sur France 2 depuis 1991. Alors, quand j'ai préparé cette émission, j'ai voulu inviter M. Claude Sérillon, qui a des obligations personnelles ailleurs, donc c'est pour ça qu'il n'est pas là ce soir dans les studios, mais j'ai été le rencontrer donc la semaine dernière, et je l'ai interviewé, posé des questions notamment sur cette émission de la Nuit des Étoiles. C'est ce qu'on va écouter tout de suite. Alors, la première question que je voulais vous poser, M. Claude Sérillon, c'est pourquoi France 2 a décidé de faire une émission sur l'astronomie ?
Au départ, ce fut le choix de la présidence de France 2, en l'occurrence, je crois que c'était Hervé Bourges, d'installer le plus souvent possible sur une chaîne publique des émissions à caractère scientifique, à caractère de découverte. Or, Hubert Reeves et beaucoup de scientifiques réclamaient cette place depuis longtemps. L'idée est plus originale qu'une émission, je dirais, hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle. Là, il s'agissait de faire un pari sur 4 heures d'émission en plein été, pendant les vacances, et à des horaires où normalement les gens se couchent. Et puis là, on les invite, au fond, et c'est l'originalité de cette émission, on les invite à ne pas trop regarder la télévision, mais à regarder le ciel. Donc c'est un rendez-vous, c'est l'occasion d'ouvrir des centres d'astronomie aussi au grand public. Donc ça a un côté un peu fête populaire, en même temps que fête de découverte et de connaissance du monde de l'astronomie.
Étiez-vous déjà intéressé par l'astronomie avant de présenter cette émission ?
Non, je ne peux pas dire que j'étais intéressé peu. C'est un grand mystère pour moi. Je dirais que ça m'intéresse en tant qu'homme, en tant que, qu'être humain, de se poser des questions sur d'où on vient, où on va, et dans quelle atmosphère nous sommes, dans quel univers nous sommes, est-ce qu'il y a des êtres ailleurs, des intelligences ailleurs, bon, tout ça, c'est toutes les questions qu'on peut se poser. Et puis d'autre part, par nature, si je fais ce métier de journaliste depuis assez longtemps, c'est parce que il me semble qu'il faut être curieux de tout. Donc je suis curieux de ça, mais je n'avais pas de connaissances particulières.
Vous êtes journaliste, vous avez présenté pendant de nombreuses années le journal de 20 heures, vous avez présenté des magazines aussi, et depuis 1991, chaque année, vous présentez la Nuit des Étoiles. Pourquoi vous a-t-on choisi pour présenter cette émission ?
Alors ça, j'en sais rien, je ne peux pas vous dire. Peut-être qu'on a jugé que j'avais des compétences ou des qualités professionnelles qui me permettaient d'animer ce genre d'émission. Voilà, donc ça s'est passé un petit peu comme ça. Au départ, il y avait une équipe constituée autour d'Hubert Reeves, de Marie-Odile Monchicourt, d'Alain Siroux, tout ça. Et puis voilà, puis on a travaillé ensemble, on a appris à se connaître, on venait d'horizons différents. Moi, j'étais très béotien en la matière. Et je crois que maintenant, on forme une équipe qui réagit assez bien, quoi.
Comment se prépare l'émission, moyens techniques, nombre de personnes présentes sur les lieux, etc.
Alors c'est une très grosse préparation. Il y a en amont plusieurs mois de préparation, ne serait-ce que pour la logistique, c'est-à-dire trouver le lieu où on le fait, réunir les moyens techniques, trouver les documents, réunir les témoins, faire les reportages. Donc il y a un gros travail en amont. Et puis ensuite sur le lieu lui-même, soit avec la SFP, soit avec des sociétés de production privées, il y a les cartes directes. Ça suppose énormément de moyens techniques, c'est-à-dire l'éclairage notamment, puisque nous faisons ça de nuit. Là, comme nous l'avons fait l'année dernière et nous le refaisons cette année, c'est à Toulouse, à la Cité de l'Espace, qui est une très vaste cité où il y a du public. Donc ça suppose beaucoup de moyens à mettre à disposition pour faire cette émission.
Que se passe-t-il après que l'émission soit terminée ? Est-ce que vous continuez à parler entre vous ? Est-ce que vous proposez des animations aux spectateurs présents ? Ou est-ce que vous pliez bagages ?
En général, on plie bagages quand même, hein, parce que d'abord, on a passé 3 jours, voire 4 jours ensemble. Donc le travail est surtout en parallèle du travail technique et matériel. Il y a un travail de préparation dans les 3 derniers jours avec Hubert, avec Roger-Maurice Bonnet, avec toute l'équipe, qui est quand même très prenant. Donc quand l'émission se termine, en général il est 2h du matin, il nous arrive de boire et de manger, mais ensuite, comme c'est en plein été, en plus chacun s'égaye vers la suite de ses vacances.
Parmi vos émissions, quel est le plus beau souvenir que vous avez d'une émission ou d'une observation ? Parce que je suppose que vous faites des observations la nuit.
Alors, il y a des souvenirs qui sont à la fois personnel, c'est-à-dire que moi j'ai appris à regarder dans une lunette et à voir les anneaux de Saturne, c'est assez émouvant, quoi. Bon, on pointe des choses quand même, c'est étonnant. Souvenir d'émission, très, très certainement la liaison en direct avec la station Mir et avec le cosmonaute français qui était là-bas à ce moment-là, l'avenue de Buzz Aldrin, l'un des hommes qui a marché sur la Lune, très certainement. Et puis des souvenirs de complicité, je pense notamment à l'année dernière avec Hubert Reeves qui avait des problèmes de santé et qui a tenu formidablement bien l'émission pendant 4 heures. C'est une complicité avec Roger Maurice Bonnet, avec Hubert, avec Sirou et avec Marie-Odile qui a fait que on sentait que la mayonnaise prenait. C'est, pardon pour l'expression un peu triviale, mais c'est important parce qu'on parle de choses qui sont très précises, très scientifiques et en même temps, c'est l'infini, c'est comment vous voulez. Par exemple, quand Hubert se met près d'un écran et puis dit, on voit très nettement sur cette diapositive telle étoile ou telle autre. En fait, on voit un petit point lumineux. Donc, il faut qu'on le croie. Alors, ce qui est formidable, c'est qu'il a une capacité très personnelle, très originaire de nous faire rêver, de nous faire penser l'univers. Et ça, je trouve que c'est des souvenirs forts. Puis, c'est des émissions qui se font en direct, 4 heures en direct, en extérieur, avec du public, avec donc le risque. Une année, avec Hubert, on a essuyé un orage invraisemblable dans le Gers, et on a terminé, on était deux vagabonds SDF, on dégoulinait de pluie, on avait les pieds les chaussures étaient prises dans la boue, enfin c'était invraisemblable, mais on a eu un vrai bonheur à le faire quand même, quoi.
Et à l'inverse, avez-vous gardé des mauvais souvenirs ?
Non, on n'a pas vraiment de mauvais souvenirs. Il y a eu une fois à Gourgoubès, dans les Cévennes, un des miroirs de Gourgoubès qui a éclaté et qui a failli tomber, failli blesser un spectateur. Donc ça, c'était un peu... Non, le mauvais souvenir, ça doit être les moustiques qui nous piquaient.
Et pendant ces émissions, avez-vous eu des fois des scoops ?
On a eu des images scoops, grâce à Alain Sirou notamment, et à Léza aussi de Bonnet. On a eu des images tout à fait étonnantes. Je pense notamment d'explosions d'étoiles. On a eu vraiment des images tout à fait exceptionnelles. Étaient-elles les premières, étaient-ce des premières diffusions, j'en sais rien, mais c'était des vrais scoops en termes d'astronomie à la télévision. Oui.
Et si par exemple on vous proposait de partir sur la station orbitale Mir, seriez-vous prêt à partir ?
Ah non, non, non. Non, 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 non. Moi je ne suis pas du tout... Moi je ne suis pas un aventurier, je suis un homme de la Terre... J'ai le vertige, ça me foutrait une trouille noire. Non, 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 non.
Si vous étiez une étoile, laquelle seriez-vous ?
D'abord, ça se saurait si j'étais une étoile. Je sais pas. Il faudrait que je trouve une étoile, mais ça, il faudrait que je demande à Hubert. Il faudrait que je trouve une étoile qui soit suffisamment libre, qui soit pas trop dans une attraction d'une galaxie ou autre. Trouver une étoile très libre. Je trouve que c'est quand même une grande qualité.
Parmi les étoiles que l'on peut voir lorsque le ciel est bien dégagé, combien connaissez-vous d'étoiles ?
Pas beaucoup. Vous savez, moi, je ne vais pas prétendre à être connaisseur. Hein. J'apprends, je bûche, je suis un élève studieux dans les semaines qui précèdent parce que je lis les dossiers, j'essaie de bien comprendre le thème. Cette année, ça va être le thème de la vie, l'eau, est-ce qu'il y a de l'eau quelque part ? Bon, comme on a fait le soleil, on a fait des... Bon, donc à chaque fois, j'ai essayé de savoir et de comprendre, mais je ne suis pas, un élève, un premier de la classe dans ce domaine.
Alors, chaque été, vous présentez la Nuit des Étoiles en compagnie de Hubert Reeves et Roger Maurice Bonnet. Si vous aviez un message à leur transmettre, quel serait-il ?
Oh bah d'abord, c'est un message de vraie amitié, de travail. En dehors, on ne se voit pas, mais moi, j'ai beaucoup d'abord de respect pour leurs connaissances. Je suis assez fasciné pour les capacités d'Hubert à me raconter des histoires à partir de faits avérés, à partir de son intelligence, sa propre intelligence, il nous fait partager son intelligence. Et surtout, l'un comme l'autre, ils m'ont donné envie de m'intéresser, de réfléchir à ce qui nous entoure, à l'univers, à l'infini, au devenir des hommes, et sans doute aussi qu'ils donnent des leçons de modestie, car aussi bien Hubert que Roger Maurice, ils ont quand même, ils auraient capacité à en imposer à beaucoup. Or, ils sont assez modestes. Ils essayent d'être bons pédagogues. Alors, moi, j'essaie d'amener ma connaissance technique de la télévision, et puis je les écoute. Et j'ai découvert des gens aussi qui se posaient beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations sur l'humanité telle qu'elle évolue, sur nos modes de vie. Et tout cela, j'irais avec le recul de leur propre connaissance sur l'espace, sur l'univers. Et je crois que si ça marche, cette émission, c'est grâce à eux, parce qu'ils ont réussi à bien s'intégrer à ce monde un peu trivial qu'est la télévision, à nos obligations de dramaturgie, de mise en scène, et à passer à travers ça pour quand même être des gens très disponibles pour le grand public. Et je crois que ça, c'est une belle leçon. Il m'est arrivé de travailler avec des gens comme eux, dans le monde scientifique, dans le monde de la génétique, dans le monde de l'art. Et à chaque fois, je me suis dit que ceux qui avaient de telles connaissances, de telles intelligences, et qui étaient capables de le faire passer au grand public, bah, c'était des gens qu'on devait absolument respecter. Alors, non seulement j'ai l'affection, de l'amitié pour eux, mais en même temps, je les respecte beaucoup.
Et pour terminer, la dernière question, pour nos auditeurs qui écoutent l'émission ce soir, auriez-vous un message à leur transmettre ?
Bah, je crois qu'il faut savoir rester la tête dans le ciel. Hein. Je crois qu'il faut savoir de temps en temps se poser, puis regarder les étoiles, regarder la lune, regarder le soleil, autrement que simplement pour passer le temps. Ça nous oblige à réfléchir à ce qu'est la planète sur laquelle on vit, à ce qu'est les origines, le devenir de cette planète. Et peut-être que ça peut apporter un peu de sagesse, en tout cas, on peut leur souhaiter.
Eh bien, monsieur Claude Sirion, je vous remercie d'avoir répondu à ces questions.
De retour justement dans les studios, donc sur Radio Droite Cité. On va continuer bien sûr dans cette émission. Donc vous venez d'avoir l'interview de Claude Sirion. Est-ce qu'il y aurait des personnes entre vous qui voudraient ajouter quelque chose à cette interview?
Non, c'est un peu difficile de rajouter quelque chose.
Enfin, je veux dire, à réagir à quelque chose qu'il a dit, quoi. C'est ça que
non, je pense que ce à quoi ça me fait réfléchir, c'est quelque chose qu'on a tous dit, en fait, sur le fait que l'astronomie permettait de... ça donnait à réfléchir, etc. Mais je trouve qu'en fait, on a un ton vachement grave pour parler de tout ça. Et je pense que l'astronomie, c'est aussi un truc qui est vraiment rigolo. Qui est vraiment rigolo à faire, à condition de le faire avec des amis, de... ici, tout à l'heure, M. Bonnet a parlé de son expérience dans son village où c'était devenu une vraie fête populaire. Et je pense que c'est vraiment ça qui est aussi quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'au moment où on est en train de regarder un truc absolument monstrueusement grand qui se passe sur des échelles de distance et de temps qui sont absolument inimaginables, dont on nous dit qu'on est relié à ça, qu'on est dans un coin d'herbe, qu'il est 5h du matin, qu'on a froid, qu'on a une petite bouteille de... un thermos de café ou d'autres choses sous la main et qu'on peut du coup se réconforter et se rapprocher peut-être un petit peu plus les uns des autres parce qu'on est finalement si petit dans cette immensité, je pense qu'on a aussi envie de rigoler et que rien que pour ça c'est vraiment des très bons moments, quoi. Donc c'est pas simplement un truc très profond et très grave, c'est aussi faire de la randonnée, c'est faire du VTT, faire des choses comme ça, c'est rigolo, l'astronomie en fait partie.
Très bien.
Moi, je voudrais rajouter quelque chose parce que Claude Sirion nous a parlé de son expérience. Mais je veux dire que c'est grâce à des gens comme lui que finalement, on a fait faire des progrès à l'astronomie plus populaire, plus proche du public. Grâce aussi à des gens comme vous, parce qu'il faut un certain courage pour consacrer plusieurs heures d'une émission de télévision, d'une émission de radio. Un sujet qui, finalement, se voit plus qu'il ne s'écoute. Et je parlais de l'astronomie. Je crois que des gens comme vous, comme Claude Sirion, ont ce mérite tout à fait étonnant de convaincre leurs chaînes, leurs autorités, de consacrer un certain temps par année à une discipline qui... les niveaux d'écoute le montrent, est très populaire et donc mériterait d'être beaucoup plus souvent mise en valeur. Je crois que ça, c'est un des grands effets des systèmes audiovisuels qui marquent notre vie au XXIe siècle, la télévision, la radio. Ça rend la science plus populaire et l'astronomie aussi. Et par le fait qu'on couple plusieurs centres d'observation, pas au même endroit, mais dans plusieurs régions de France, c'est aussi un moyen de communiquer qui permet de regrouper pendant un certain temps plusieurs centaines de milliers de paires d'yeux sur la même étoile. Je trouve ça remarquable. Et puisque Claude Sérillon nous a envoyé des fleurs, ben je lui renvoie bien gentiment.
Voilà, on va passer au quatrième sujet donc, de cette émission de Voyage à travers les étoiles, c'est quels sont les projets futurs. Alors là, on va venir plus en détail avec Monsieur Bonnet. La première chose que je voudrais lui poser, bon, on sait, on a eu par exemple les conquêtes de la Lune avec les missions Apollo et tout ça. Bon, maintenant les missions sur la Lune c'est terminé. Bon, on a eu des missions actuellement avec la station orbitale Mir. Mais quels sont maintenant, franchement, les projets futurs? Je crois que maintenant la grande priorité c'est la planète Mars.
Oui, si on parle évidemment de missions habitées ou de missions d'exploration, c'est vrai que la planète Mars, c'est un objet qui fascine, parce que c'est une planète qui est sœur de la Terre, qu'elle a eu vraisemblablement une période assez lointaine maintenant, une surface recouverte d'océans, de grandes étendues d'eau, de rivières gigantesques. Que cette eau a disparu et que, ben, on pourrait se demander si la même chose ne nous arrivera pas à nous sur Terre, bien avant que le Soleil ne disparaisse. Est-ce que notre planète elle-même ne va pas être amenée à subir cette sécheresse cosmique? Donc, ça c'est un point important. L'autre, c'est évidemment que s'il y a eu de l'eau, il y a peut-être eu de la vie, donc on a envie d'y retourner. Les Américains et les Européens ont des programmes tout à fait planifiés pendant les 10 prochaines années pour aller revisiter Mars, qui a déjà été visité à de nombreuses reprises par les Américains et par les Russes, ou ce qu'on appelait alors les Soviétiques. Mais c'est une planète qui leur a porté la poisse. C'est peut-être à cause de sa couleur, je ne sais pas. Mais en tout cas, la planète rouge n'a pas porté chance aux Soviétiques. Ils n'ont jamais bien réussi à l'observer ni à s'y poser. Alors que les Américains ont fait des miracles. Et encore, on a vu l'année dernière, au mois de juillet, cette petite merveille de robot qui est allé atterrir sur Mars et a pris des images tout à fait spectaculaires. Qu'est-ce qu'on va faire sur Mars maintenant? Alors, la première chose à faire, je crois que c'est d'aller se poser sur Mars et de ramener des échantillons. Alors ça, c'est l'objet de la mission qui aura lieu en 2005 et qui verra les Américains, les Français, les Européens s'associer main dans la main pour faire marcher un tas de robots et ramener sur notre Terre des échantillons pour les analyser et voir s'ils ne contiennent pas des formes de vie fossiles. Auparavant, les Européens ont un projet qu'ils appellent Mars Express. C'est un joli nom, ça fait penser un peu à un train, un TGV. C'est une espèce de TGV martien parce qu'il faut aller très vite et qu'on profite de la fenêtre astronomique de lancement de 2003. On ne va pas sur Mars tout le temps, il faut partir à certains moments. Et en 2003, c'est une bonne date. On y va plus vite si on part en 2003 que si on part à une autre date. Donc les Européens vont lancer là une petite mission. Mais c'est un vrai bijou, cette mission, parce qu'elle contient un instrument tout à fait nouveau. C'est un radar. Alors ce radar, il a la particularité de pouvoir sonder le sol de la planète et le sous-sol de la planète jusqu'à des profondeurs de plusieurs centaines de mètres, voire du kilomètre. Alors, à quoi ça sert de sonder l'intérieur de la planète? Eh bien, c'est justement pour découvrir s'il n'y a pas dans le sous-sol de la planète des nappes d'eau, la nappe phréatique de Mars. Ça serait très intéressant de l'observer, parce qu'il y a eu de l'eau sur Mars. Où est passée cette eau? Il y en existe sous forme de glace aux calottes polaires de Mars. Et vraisemblablement, l'eau de Mars est dans son sous-sol. Et bon, si l'eau est dans le sous-sol, il y a peut-être des endroits où l'eau est liquide. Et si l'eau est liquide dans Mars, sous la surface, il ne fait peut-être pas nécessairement très froid. Les Martiens sont peut-être là, cachés dans leurs cavernes. Donc c'est ça qu'on aimerait bien aller, non pas chercher, parce qu'on n'ira pas dans le sous-sol, on va le sonder. On ira dans le sous-sol plus tard, quand on aura fait cette première observation. Alors vous allez me dire, évidemment, et l'homme sur Mars? Ça, la question que tout le monde se pose. Oui. Non, la femme, évidemment, parce que envoyer des hommes ou des femmes toutes seules sur Mars, c'est une affaire de plusieurs mois, je dirais même de plusieurs années, parce que pour aller sur Mars, en moyenne, il faut à peu près 9 mois. 9 mois, ça vous dit quelque chose? Il faut à peu près 9 mois pour revenir, et puis il faut à peu près... On ne va pas aller là-bas pour rester 5 minutes, on va rester un petit peu. Oui. Donc, c'est une affaire de plusieurs années. Et on sait bien que, bon, lorsque les astronautes sont autour de la Terre, près de la Terre, bon, ils ne sont pas trop stressés. Ils savent qu'ils peuvent revenir, ils savent qu'ils peuvent parler à leur famille, ils peuvent écouter de la musique... Quand on commence à s'éloigner, puis que la Terre ne devient plus qu'un petit point, on commence à se poser des questions. Donc les aspects psychologiques, et d'ailleurs les aspects de société à l'intérieur d'une capsule martienne deviennent prépondérants. Donc on pense d'ailleurs, les astronautes pensent que ce serait pour eux tout à fait important de pouvoir y aller avec leur compagne ou leur compagnon. Alors, bon, s'ils sont dans l'espace, ils vont peut-être faire des enfants. Comment faire un accouchement dans l'espace? C'est pas facile, on l'a jamais fait. On n'est pas du tout armé pour ça, donc il faut des capsules gigantesques. Quand on va vers Mars, on est en plein dans les effluves du vent solaire. Le vent solaire, c'est pas un vent vraiment. C'est une espèce d'émanation permanente qui vient du Soleil, de particules très énergétiques, des protons, c'est-à-dire des atomes d'hydrogène, des électrons, des particules électrisées. C'est pas un environnement très sympathique. Et quand le Soleil se met en colère, ce qui lui arrive de temps en temps, il envoie dans l'espace des grandes quantités, des grands nuages de ces particules très puissantes qui pénètrent tout. Et qui pénètrent évidemment le corps et nos cellules. Et peuvent produire des dommages assez considérables, des cancers. Donc il faut se protéger. Et pour se protéger, qu'est-ce qu'on met? On met des capsules de plomb ou de béton. Donc il faut des habitacles extrêmement lourds. Et aujourd'hui, on n'a pas de fusée suffisamment puissante pour construire toute cette structure et cette infrastructure. Donc on pense que dans un premier temps, ça serait mieux d'aller peut-être soit sur une station spatiale autour de la Terre, soit sur la Lune. Donc on retournera sur la Lune, c'est mon impression et ma conviction. Pas seulement pour y faire des sauts de puce, mais pour s'en servir comme base de départ vers Mars. Parce que sur la Lune, on pourra plus facilement se doter des moyens d'assembler des structures et un train spatial pour aller vers Mars. Et puis une fois qu'on est sur la Lune, c'est très facile d'en sortir parce que la gravitation de la Lune est très faible. Donc elle est 6 fois plus faible que celle de la Terre. Le champ de gravité est beaucoup plus faible. Donc c'est plus facile d'en partir. Donc voilà un petit scénario qui nous amènera sans doute vers Mars. Moi, j'ai toujours dit que ce serait dans la troisième décennie du siècle prochain, c'est-à-dire entre 2020 et 2030. À mon avis, on peut peut-être essayer de parier sur 2025. Ce qui sera difficile, c'est de décider. Comment est-ce qu'on y va et qui y va et est-ce qu'on est prêt à y mettre l'argent? Parce que ça coûtera très cher. Alors ça sera un processus de décision intéressant. Les Américains sont allés sur la Lune parce que les Russes les poussaient dans le cadre d'une compétition féroce où les aspects militaires n'étaient pas du tout étrangers. Cette compétition ayant pour l'instant disparu, et on peut s'en féliciter pour les aspects pacifiques qu'elle comporte, on a maintenant le défi de dire est-ce qu'on va, on va tout seul, qui va? Moi, je pense que ce serait vraiment dommage et désastreux qu'on laisse les Américains seuls aller sur Mars et de faire de Mars une terre essentiellement américaine. Je crois que les Européens ont tout à fait les moyens et le droit aussi d'y aller. Je crois qu'ils doivent simplement se doter d'un petit peu de volonté et de vision pour le faire.
Oui, surtout que je pense moi aux cosmonautes qui, s'ils vont sur Mars, vous dites 9 mois pour y aller, 9 mois pour revenir, et puis en plus le temps qu'ils vont passer sur la planète, donc ça représente quand même plusieurs années, mais en plus un an sur Mars est plus long, je crois, ou plus court que sur planète Terre.
Oui, mais je parlais en année terrienne, là. Je parlais donc en temps terrien, donc... Effectivement, je crois qu'une année de Mars, c'est 2 ans d'une année terrestre. Donc, il n'y a pas de... je parlais en jour ou en année ou en mois terrestre.
D'accord. Donc ça, c'est les projets futurs par rapport à Mars. Mais est-ce qu'il y a aussi d'autres projets en dehors de Mars?
Bien sûr, parce que Mars, c'est la banlieue de la Terre. C'est l'exploration planétaire. Il y aura certainement beaucoup d'intérêt pour l'exploration de notre système solaire au siècle prochain. Vous savez sans doute qu'on va faire le plus lointain atterrissage jamais effectué dans l'histoire de l'humanité en 2004, lorsque la petite capsule Huygens, qui a été construite par l'aérospatiale d'ailleurs, et sous le couvert de l'Agence spatiale européenne, va atterrir sur Titan. Au bout d'un voyage de 7 ans, cette capsule va fonctionner pendant 30 minutes pour essayer d'observer ce monde tout à fait extraordinaire sur lequel il neige de la matière organique depuis que le système solaire s'est formé, c'est-à-dire depuis 4 milliards et demi d'années. Et on va aller observer ceci pour la première fois. Donc c'est tout à fait fascinant, c'est extrêmement intéressant et ça nous permettra sans doute d'envisager un programme à plus long terme, après retourner sur Titan et éventuellement s'y installer. Je pense que ce ne sera pas de la fiction au 21e siècle. Plus loin, bon, les Américains ont des projets pour aller sur les planètes les plus lointaines, Pluton. Ils ont un projet pour aller sur Europa, cette fameuse planète qui est un énorme glacier sphérique. Mais on pourrait parler aussi des projets de l'astronomie, parce que les planètes, c'est bien, mais le reste de l'univers, c'est encore beaucoup plus plein d'étoiles et de planètes. Et alors là, nous sommes au début d'une ère absolument fantastique, car que ce soit au sol ou dans l'espace, on construit des télescopes de plus en plus grands. On vient d'inaugurer, il y a quelques jours, le plus grand télescope construit sur notre planète, le VLT, Very Large Telescope, sous l'égide de l'Observatoire européen de l'hémisphère sud, l'ESO. Et ça, c'est un instrument sans égal qui va nous permettre de faire des découvertes majeures d'autres planètes autour d'autres étoiles et sans doute de sonder les confins de notre univers. L'ennui des télescopes sur Terre, c'est qu'ils sont bloqués par l'atmosphère de notre planète que le rayonnement doit traverser. Et donc, on ne peut observer que pratiquement les couleurs de l'arc-en-ciel à travers notre atmosphère. Si on veut regarder d'autres domaines de lumière, l'infrarouge, l'ultraviolet, les rayons X, les rayons gamma, il faut aller dans l'espace. Et là aussi, il existe de nombreux projets pour aller dans l'espace. Les Européens vont envoyer dans un an maintenant le plus grand télescope à rayons X jamais construit. C'est le plus gros instrument pour observer l'univers énergique, l'univers explosif qu'on ait jamais fait. Il partira sur une fusée Ariane 5 en 1999, le 3 août exactement, 6 jours avant l'éclipse dont on parlait tout à l'heure. Il sera suivi une année plus tard d'un autre télescope aussi impressionnant pour l'étude du rayonnement gamma. C'est le rayonnement le plus puissant, le plus énergétique qu'on puisse imaginer dans l'astronomie. Et puis, vers 2006-2007, on enverra un très grand télescope de 3,50 m de diamètre pour regarder le rayonnement infrarouge très lointain, et un plus petit télescope pour regarder ce fameux Big Bang dont on parlait tout à l'heure. Voilà des projets qui nous sont tout à fait chers et que nous aimerions bien engager le plus rapidement possible. La plupart d'entre eux le sont, d'autres sont sur le point de commencer.
Très bien. Alors, on va revenir toujours sur ce sujet de quels sont les projets futurs, mais on va refaire un petit tour avec les reportages de Michel Bougenin, qui va nous expliquer, donc, par l'intermédiaire de ce reportage, toujours la mythologie grecque qui entoure les constellations. Là, il va nous parler de la Voie lactée, entre autres, et puis on se retrouve juste après.
De cet océan sur lequel vous avez posé les yeux, vous pouvez maintenant apercevoir la Voie lactée. Merveille d'entre toutes les merveilles. Elle s'étire à travers tout le firmament, du nord au sud, comme un long ruban de perles translucides. Peu importe qu'elle soit parsemée de nébulosités plus ou moins nettes et entrecoupée de zones poussiéreuses et opaques, puisqu'elle est et restera pour l'éternité l'image de la pureté. Attendez minuit, l'heure de Cendrillon, pour la voir apparaître dans sa pantoufle de diamant à l'horizon du nord-est. Si vous patientez un peu, vous la verrez monter peu à peu dans le ciel, rejoindre Cassiopée, basculer au zénith, effleurer Deneb et traverser sous les ailes de l'aigle pour se faufiler à l'horizon du sud. De tout temps, pour tous les hommes, la Voie lactée est un chemin de destin, la route des âmes qui accèdent au paradis, la voie qui relie le terrestre au divin. Pour les Grecs de l'Antiquité, elle est la traînée de lait jaillie de la poitrine d'Héra. Alors qu'elle était endormie, elle fut réveillée par Héraclès, tétant son sein pour jouir de l'éternité. Furieuse, elle le repoussa rageusement, mais il était trop tard. La Voie lactée illuminait déjà les ténèbres du ciel. Je vous ai dit que la Voie lactée était la route des âmes qui accèdent au paradis. Mais pour les Tatars de la Volga, comme pour les Lapons, elle est le chemin des oies sauvages qui migrent d'Arctique en pays chaud, un vol continu de plumes blanches immaculées. Plus rare encore, pour les Dayaks de Bornéo, toujours des amis à moi, comme pour les Maranis d'Amazonie, à qui je téléphone tous les jours, Elle est une traînée de sperme suprême qui a donné naissance au peuple et qui empêchera la race de s'éteindre à jamais. Ainsi, certains sorciers malins prêchent-ils de délaisser les femmes juste pour le plaisir de voir tomber les nouveau-nés du ciel? Ils sont fous, ces sorciers!
Voilà, donc, petit reportage avec... Ah, attention, on est à l'antenne. Voilà, on se retrouve dans les studios, donc. Monsieur Le Tessier qui était pris dans des discussions hors antenne, là. Non, mais c'est pas grave. Donc, on va revenir toujours sur ce quatrième sujet, donc quatrième rubrique, les projets futurs. Alors, j'en reviens à Monsieur Bonnet, parce que j'ai trouvé dans une revue, il parle que l'aérospatiale, pour l'Europe, donc, a inventé le scooter de l'espace, qui s'appelle donc la capsule ARD. Alors, pour en parler plus en détail, qu'est-ce que la capsule ARD ?
Oh, c'est une capsule qui sera utile aux astronautes qui voleront sur cette grande station spatiale internationale que Américains, Russes, Européens, Japonais et Canadiens sont en train de construire et qui sera peu à peu comme un mécano construite dès la fin de cette année et qui sera visitée, comme l'a été la station Mir, par des astronautes de chacun des pays en question, c'est-à-dire américains, russes, européens, japonais, canadiens. Ces astronautes iront vers la station par la navette, vraisemblablement, ou par des engins russes. Mais il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qui va se passer si, par exemple, on envoie des astronautes avec la navette et puis qu'un accident semblable à celui de Challenger se produit, qui cloue toutes les navettes spatiales américaines au sol. Alors ça, c'est bien embêtant parce qu'on a les astronautes sur la station, on ne peut plus y aller, on n'ose pas sacrifier les astronautes sur Terre. Il faut donc trouver un moyen de ramener ceux qui sont dans l'espace. C'est une espèce de véhicule de secours. Et c'était l'idée d'avoir que l'on a eue quand on a proposé de développer cet ARD, qui est un véhicule donc de retour, une capsule qui permet de ramener les astronautes sur Terre, un petit peu comme on ramenait les astronautes de la Lune sur Terre. D'ailleurs, cette ARD ressemble étrangement aux capsules Apollo qui ramenaient les astronautes Neil Armstrong, Buzz Aldrin et tous leurs successeurs sur notre planète. Voilà l'idée de cet ARD, c'est donc une idée logique. Et les Européens se sont donc impliqués dans le développement de cette capsule qui a été confiée à l'aérospatiale. Et elle volera dans son vol inaugural pour un test dans le prochain vol d'Ariane 5 qui devrait avoir lieu à la mi-octobre, donc dans quelques mois seulement.
Ouais, c'est donc très proche.